Bonjour tout le monde et bienvenue sur Techno Carotte. Bonjour Destou.
Salut Rambite.
Aujourd'hui, on veut vous dire une chose, c'est que le podcast au niveau technique et sonore a de la légère difficulté ce soir. Donc, l'informatique telle qu'elle est, désolé si la qualité sonore n'est pas au rendez-vous. Le problème sera probablement réglé et c'est quasiment une confirmation, sera réglé au prochain show. Donc, on est au show numéro 2 et Destou, très bonne nouvelle, on est maintenant sur iTunes.
Oui, on a submetté ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a submetté ça, on est maintenant listé sur iTunes. Donc, pour nous trouver, il y a juste à faire un search sur Carotte. Puis là, ça permet non seulement là, de downloader le show sur iTunes, mais aussi de synchroniser automatiquement votre lecteur MP3 avec le show. Comme ça, vous avez plus besoin de vous en faire pour downloader, transférer, effacer les vieilles versions, etc. C'est tout automatique.
Également, on veut vous dire aussi que même si on est sur iTunes, on reste toujours disponible sur le site officiel de Techno Carotte. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter. Si vous n'avez pas iTunes, vous allez pouvoir toujours nous écouter. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus.
Pour cette semaine, ben on va commencer avec toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu cette semaine sur la PS3.
Donc, c'est ça qui était de positif cette semaine pour la PS3.
Pour dans les nouvelles qui nous touchent directement, parce qu'on est comme au Québec, à Montréal, dans ce qui se passe présentement avec Ubisoft, le gouvernement, c'est fédéral ou provincial? Il y a un des gouvernements qui a décidé de donner l'équivalent de 400 millions à Ubisoft sur 6-7 ans, et ça pour leur studio de films assistés par ordinateur, c'est-à-dire tout ce qui est cutscene, tout ce qui est publicité, tout ce qui est généré un peu comme Softimage là, puis les autres grosses compagnies là. Tout ce qui est généré à l'ordinateur, ben ils vont monter le studio, ils vont créer au-dessus de 1000 emplois d'ici 2013. Puis là-dessus, ça va être des postes là, de spécialistes de CGI. Donc on parle là, de nouveaux films, peut-être des films complet ou des petits films d'intro puis de cutscene, mais on parle là, du stock intéressant qui s'en vient à Montréal, là, des bonnes opportunités d'emploi.
Crois-tu qu'on va avoir un genre de Final Fantasy en film?
Ah, peut-être, oui, ils vont peut-être prendre une des franchises puis en faire un film. Là, présentement, le dernier film qui est sorti ou qui s'en vient, c'est Assassin's Creed. Donc, ils ont fait un autre short movie là, pour présenter le jeu, qui est l'histoire là, d'un assassin dans le temps des Templiers. En fait, il y a plus que ça à l'histoire comme telle. Là. Ils ont leaké un peu d'informations là, sur la base du jeu. Mais oui, c'est sûr là, que ça va mener là, à des films complets là, pour toucher plus au grand public. Parce que c'est ça qu'ils vont pouvoir faire. Puis c'est comme ça un peu que le gouvernement va recevoir de l'investissement qu'il a fait là, en élevant les jeux vidéo à un art.
Tantôt, je parlais de Final Fantasy. Tout ce que j'espère, c'est que ça sera pas un gouffre financier comme le premier film l'a été.
Je le sais pas, parce que un film puis un jeu, c'est complètement différent. Si on fait un jeu puis on met, mettons, 30 millions dans un jeu, ben on a une chance de refaire ce 30 millions-là, puis c'est dans la vente du jeu lui-même des premières semaines. Tandis qu'un film, il y a beaucoup de produits dérivés. Il n'y a pas juste le film au cinéma. Fait que ça se peut que, je pense, Final Fantasy avait coûté quelque chose comme 120 millions, quelque chose comme ça. Puis là, on parle que ça s'est encouvré au cinéma. Oui, peut-être, mais il y a DVD, il y a tous les produits connexes, puis ces choses-là. Ça compte là, dans les revenus du film. C'est pour ça qu'un film, une fois qu'il est fait, peut être revendu 5 fois. Fait que c'est peut-être ça là, qui manque à l'industrie du jeu.
Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour ce qui est du Québec. Là, ça va permettre d'avoir des emplois.
Ouais, puis c'est pas juste l'emploi, c'est surtout l'expertise qui va être là. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies de développement sur la côte ouest. Il y en a aussi dans le Greater Toronto Area. Là, on parle de Toronto et tout ça. Mais à Montréal, c'est les deux gros, c'est Ubisoft puis Electronic Arts qui sont vraiment présents là. Mais si on vient mêler les films créés par ordinateur, c'est-à-dire les CGI, donc on vient de rajouter là une autre grosse portion du marché, que ce soit dans les jeux et dans le cinéma aussi.
Dernière question sur ce sujet-là. Crois-tu que, parce qu'on sait que quand il y a un film qui sort, automatiquement, il y a un jeu qui sort. Donc, si Ubisoft crée un film et crée le jeu, crois-tu qu'il va y avoir un conflit ou que le jeu et ou le film sera à la hauteur de l'autre?
De plus en plus, les jeux basés sur des films, on trouve là, des exceptions. On dit qu'un jeu basé sur un film, c'est pas bon. Ben, il y en a là qui sont parus récemment, là, qui sont des chefs-d'œuvre. Si on regarde, King Kong était pas mal intéressant. Puis il y a quelques jeux sur le Seigneur des Anneaux là qui étaient vraiment là très très spectaculaires. Fait que oui, ça va peut-être casser un peu le résultat que un film sort, un jeu sort, puis c'est un jeu qui est assez médiocre. Mais ça devrait peut-être à l'envers, que ça va être un bon jeu, puis un bon...
Ça va juste faire bizarre que le jeu et le film sortent de la même compagnie, même des mêmes bureaux. Là.
La même maison de production, oui. C'est surtout ça qui va être spécial. Là. Ouais. Ça va être à voir.
Moi, de mon côté, le sujet qui m'a intéressé cette semaine, c'est la déclaration, plutôt la lettre ouverte de Steve Jobs de chez Apple, qui a écrit une lettre ouverte sur son site, sur le site d'Apple finalement, disant que lui et les protections, ils pourraient s'en passer. C'est le débat recommence. Il y avait eu une accalmie concernant ça. Et maintenant, les ce qu'on appelle les DRM. En gros, les DRM, c'est ce qui gère les droits de protection de fichiers. Et c'est souvent les compagnies disques qui demandent d'avoir telle ou telle protection. Exemple, un fichier ne peut pas se copier plus que 3 fois entre machines. Ça va même jusqu'à des lectures même. Donc, un film ne peut pas être lu ou un fichier audio ne peut pas être lu plus que X nombre de fois. Et c'est Steve Jobs qui a déclaré que lui, il pourrait bien s'en balancer.
Ben, c'est un peu comme pour les films, je veux dire, ils mettent des protections, ça va arrêter le commun des mortels, puis c'est juste eux autres que ça va arrêter, parce que pour le moment, là, on parle avec Vista, là, ils vont mettre des plus grosses protections. Moi, j'ai l'impression là, que c'est pédaler là, dans le vide un peu, là, tous les efforts qu'ils font pour protéger la musique. Puis, de l'autre côté, Steve Jobs, ben, c'est ça qu'il voudrait vendre de la musique pour pousser ses lecteurs à MP3. C'est très compliqué comme sujet.
Ça paraît simple, mais c'est compliqué.
Il y a un gros impact là, sur ce que ça l'implique.
Je sais que lui, dans sa lettre, il expliquait, en bref, là, il expliquait que ce qu'il voudrait, c'est que n'importe quelle plateforme puisse lire n'importe quel fichier qui est téléchargé de n'importe où. Donc, on serait sur le site d'Archambault, on pourrait télécharger directement sur son iPod ou vice-versa. Là. Le problème, et c'est là que l'ironie rentre en ligne de compte, c'est que Steve Jobs n'est pas prêt, lui, à débarrer sa technologie de iTunes pour être mis sur des baladeurs numériques, par exemple de Creative ou le Zoom de Microsoft. Donc, il tire la couverte, mais il en donne pas non plus, là.
Maintenant, on va parler des Miniboss, qui est un groupe un peu metal, rock, un peu glamour rock des années 80, début 90. Puis eux, ils reprennent des tonnes de jeux, carrément là, de la musique de vieux jeux, là, comme par exemple de Metroid, de Contra et de... ils ont pas refait Zelda, mais je pense que ça s'en vient.
On parle des jeux là dans le temps du Nintendo là, en quoi 92 environ.
Ouais, 90, un peu avant ça là, Mario. Vraiment là, ils vont chercher dans le plus basic, puis ils font des arrangements musicaux là pour que ça continue là à ressembler au ton original. Ben on parle de guitare, une bass, un drum, puis des solos puis des affaires comme ça là à n'en plus finir, là, puis qui embarque le monde, puis ça trash dans le show. Là. C'est vraiment là du nerd rock. Là.
Pour l'avoir expérimenté justement à la suite du Festival Arcadia qu'on a été voir le festival de 2006. Là. Moi, c'était la première fois que je les voyais, les mini-boss, et puis malgré ma coiffure, et comme le monde peuvent le savoir, j'en ai pas épais sur la tête, ça décoiffe. Les mini-boss sont là pour faire lever, et c'est assez surprenant là comme arrangement. Là.
Oh oui, ils donnent vraiment un beau show aussi. Là. Le groupe est vraiment énergétique. Ils ont l'air un peu plus vieux que nous autres. Ben nous autres déjà on est dans la trentaine là, puis mais on parle là, ils ont l'air trentaine avancée. Juste de le look, mais je sais que ça peut être trompeur là, mais ils ont vraiment l'air d'avoir du fun. C'est un groupe qui était au Massachusetts, je pense, ou sa côte est. Puis il y a quelques années, ils ont fait le trajet, ils se sont dit bon, on s'en va à LA parce qu'on s'est fait offrir quelque chose. Puis on y va tranquillement, on a besoin de place pour dormir. Puis donner des shows. Fait qu'ils ont fait un genre de tour partant de la côte est vers la côte ouest. Puis ça avait fait triper bien du monde là. Bon, ben, c'est venu une couple d'années, ça, ce tour-là. Moi, c'est la deuxième fois que j'y vois personnellement. La première fois, c'était à Arcadia, au festival lui-même, l'an passé, en 2005. Puis, cette année, au festival 2006, ça s'est fait, mais pas durant le festival, pas au site du festival, mais ça s'est fait au Club Soda. J'ai trouvé ça pas mal de fun, que ce soit dans une salle de spectacle au lieu d'être dans un aréna. Quand même, il y avait quand même moins de monde là, que si on avait été au festival même.
Ben ça c'est un des points faibles aussi là qu'on avait parlé là du concernant ouais. Le festival, c'est que toi pour y avoir été l'année passée, le show et le festival étaient dans la même amphithéâtre là.
Exactement.
Et puis, cette année ils ont décidé de séparer ça en deux là.
Oui, probablement là pour que ça soit plus peut-être à donner plus de temps à la journée de samedi. Parce que de la manière que ça fonctionnait l'année passée, ils fermaient les portes entre 5 et 6. Pendant une heure, ils fermaient les portes. Puis après 6 heures, c'était 18 ans plus, il y avait de l'alcool. Puis c'était les shows surtout. Un show de Junkie XL quelque chose. DJ Junkie, je pense, ou quelque chose comme ça. Il y avait les 8-Bit People, dont Bitshifter et All Sleep, qu'on vous fait jouer là de temps en temps avec le podcast. Et puis les mini-boss là, qui ont vraiment là jeté le monde à terre là, tellement que c'était hallucinant comme show. Puis pour cette année, ben c'était il y avait trois actes. Le premier c'était avec Bit Boy.
Ouais, lui il était tout seul là.
Oui, lui, il était tout seul avec un Game Boy, puis un ampli, puis je pense qu'il y avait un autre modificateur de son, là, puis on parle un peu de trance, un peu beaucoup techno, là, parce que c'est carrément là, techno, mais il allait pas chercher tous les sons que les autres allaient chercher, là, comme par exemple Bitshifter puis No Sleep. Il allait pas chercher les sons là, qui arrachent, puis il n'y avait pas vraiment de charisme de scène. C'est très beau ce qu'il faisait, c'est très bon, mais c'était pas comme à trasher, là. C'était vraiment là du écouter tranquille, puis assez trance. Comme deuxième partie, il y avait les Freeze Pop, un groupe de trois, une dame qui chante très bien, puis qui est pas mal énergétique, puis deux gars avec des guitares, synthé, beaucoup d'effets, là, je pense que c'est un Yamaha, leur machine fétiche, je ne me rappelle plus du modèle, là, mais on peut le voir sur leur site. Puis on va poster un lien sur Techno Carotte. Mais un beau son, là. Je pense qu'il n'y a pas une chanson où les gars n'ont pas modifié leur voix, là, soit pour sonner comme des robots ou des choses comme ça, ou faire juste des accords là, de backup vocal. Mais non, c'était un beau show. Puis le nom, on ne trompe pas, là, Freeze Pop. On parle de... C'est pop. Ça l'entraîne, c'est rythmé. Mais beaucoup de beaux sons intéressants.
Puis aussi, il y avait pas juste les instruments et leur voix qui changeaient. Il y en avait un aussi, je sais pas si tu t'en rappelles. C'était son chandail, lui, qui a attiré vraiment l'attention.
Ah oui, il y avait un chandail. Mon frère l'a trouvé, ce chandail-là. Il est sur ThinkGeek. On parle d'un chandail avec un micro, puis une batterie, puis qui montre, c'est comme un, pas un equalizer, mais un visualisateur de fréquence. C'est pas mal rigolo comme chandail, là.
Et le clou de la soirée a été les mini-boss.
Les mini-boss qui ont fait toute leur tune là, qui sont les meilleurs, là. On parle de Contra, Castlevania, des choses. Tout des vieux jeux, là, auxquels on a joué sur Nintendo. Ils ont même fait une tune qui dure à peu près 7-8 secondes, qui est l'intro de Exciter Bike sur NES. Puis c'est une toune de 8 secondes, puis ils l'ont joué peut-être 14-15 fois.
Ah oui, au ralenti, en accéléré.
Ralenti, en accéléré, on dit on arrête, puis là, on en voulait encore, là. On en voulait encore, c'était pas assez, là.
Moi, je parie que l'année prochaine, cette année, au nouveau festival de 2007, oui. Moi, je prévois qu'ils sont encore là.
Ah, j'espère.
J'espère moi aussi.
Là, je veux dire, c'est je trouve qu'il représente beaucoup là ce que c'est les jeux vidéo puis ce que ça l'a sur quoi ça l'a déboulé là. C'est pas juste le jeu s'arrête pas quand on ferme la machine là.
Puis moi qui a été surpris moi ce genre de musique là mais regarde, après ma barre ne m'accroche pas mais pas du tout là, c'est pas dans mes cordes là, c'est du rock, c'est quasiment, tu sais, c'est comme tu dis, c'est du trash là, le monde se garoche un sur l'autre, ouais. c'est pas ça là que j'aime, mais les écouter, ça a été là comme moi, ça a été moi aussi une révélation cette année là.
C'est pas parce que tu t'attends pas à aimer le style que t'accrocheras pas. Fait que oui, on peut être bien borné des fois puis rien vouloir savoir d'un style ou d'un autre, mais je pense que c'est dans la prestation de l'artiste là, qu'on sait si on aime ou on n'aime pas. Là.
C'est ce qui conclut notre émission numéro 2 de Technocarotte, l'émission du 11 février 2007. Nous tenons à vous rappeler que les liens pour les mini-boss et Freeze Pop se retrouveront dans notre section podcast. Donc, vous cliquez sur le lien en haut à gauche, vous cliquez sur podcast et vous vous retrouverez là dans la section et les liens s'y retrouveront. Donc, merci beaucoup. Merci Destou.
Et merci Rob Mike.
Et sur ce, nous vous laissons avec une chanson des mini-boss, qui est une chanson d'un classique des jeux vidéo, qui est Mario Bros 2. Donc, et vous pouvez aussi aller la télécharger au complet sur le site des mini-boss. Donc, on vous remercie d'être à l'écoute et à dans 2 semaines!